Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans l'Amérique Info sur VOA Afrique. Eric Magnatiza avec vous au micro. Ce soir, vous suivez l'itinéraire comme écrivain de l'auteur sénégalais Boubacar Boris Diop, qui a reçu le 24 octobre 2022 le Neustadt, le prix international de littérature, qui lui a été décerné dans l'État américain de l'Oklahoma. Lors de son séjour ici aux États-Unis, Boris Diop a accordé un entretien exclusif à VOA Afrique. Il raconte ce que le prix qu'il a reçu, il faut le dire, équivalent du Nobel de littérature, représente pour lui et pour les Africains. Georges Léonard Sagno assure la mise en onde. Encore une fois, bienvenue. Boubacar Boris Diop, Nangadef.
Ah mais magnifique, Eric, magnifique.
Bonjour.
Oui, bonjour.
C'est le seul mot wolof que je connais.
Bah ben, il faut un début à tout, bravo. L'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter là, voilà.
Merci, vous êtes l'un des éminents romanciers, dramaturges et essayistes africains. Comment vous devenez à ce que vous êtes aujourd'hui?
Une carrière d'écrivain, je dis toujours qu'elle vient par derrière. Au départ, bon, l'ambition n'est pas très, très claire, ni même très, très grande. On veut raconter des histoires. Ben, c'est comme quand on est présent dans une assemblée, il y a des amis qui racontent des histoires et on se dit, ah, mais moi aussi, je peux le faire. Eh bien, c'est pareil. On lit des livres, on en lit beaucoup, on les relit. On admire l'ingéniosité, le talent de ceux qui les ont écrits. Et on se dit, ah, mais moi aussi, hein, pourquoi pas, je vais essayer. Et bon, ben, il y a des lecteurs, il y a des gens qui disent, oh, mais c'est très bien, oh là là, ça donne envie de continuer. Et d'envie de continuer comme ça, en envie de continuer. Un jour, vous pouvez mettre sur votre carte postale, et je suis désolé, votre carte de visite, vous pouvez mettre écrivain, voilà. Mais en fait, c'est vous-même qui avez décidé de devenir écrivain. Il n'y a pas d'école où on apprend à être écrivain. Il n'y a rien de tout ça. C'est une pratique constante. Et une remise en question permanente. C'est ça qui fait que c'est si excitant. Et il y a le fait aussi que ben, ça ne s'arrête jamais. Voilà, dans mon cas... je viens de parler de lecture. Ben, mon père était un fonctionnaire d'administration coloniale. Il avait l'idée d'implanter une grosse bibliothèque dans la maison. Il y avait toutes sortes de livres. Bon, moi jeune, j'étais assez réservé. J'étais bègue aussi. J'avais du mal à parler correctement. Et voilà, la compagnie des livres était vraiment ce que j'appréciais le plus. J'ai passé des heures et des heures dans cette bibliothèque-là à lire des livres importants. Je me souviens que tous les auteurs français du 19e siècle étaient là parmi ces centaines d'ouvrages. Et puis bon, le soir, j'écoutais des contes qui m'impressionnaient beaucoup. Et l'un dans l'autre, les livres le jour, les contes la nuit, m'ont appris qu'avec les mots, on peut fabriquer des mondes. On peut faire éprouver, comme moi-même j'ai éprouvé ces sentiments-là, aux autres, toute la gamme des sentiments humains, la compassion, la haine, le mépris, la joie et la colère, quoi, le ressentiment, voilà, la peine. Et ben, je me suis mis à écrire. Et c'est normal d'ailleurs que je sois passé du français au wolof, parce que les livres que je lisais, les livres du père, c'était en français, mais les contes que j'entendais de ma mère, c'était des contes en Wolof, parce qu'elle elle n'avait jamais franchi le seuil d'une école française, quoi. Mm-hmm.
Quand on lit vos textes, il y a à la fois continuité et rupture. C'est voulu ou c'est dicté par le contexte?
Ah, bon, je dis toujours que le texte vient par derrière. Je crois même vous l'avoir dit au début. Au fond, on ne contrôle pas. Hein. Je pense que les écrivains qui sont en contrôle, très souvent, ratent leur cible. Je crois qu'il faut fermer les yeux et tirer dans le tas, si je peux utiliser cette image. Oui, c'est la fable du mille pattes, je me souviens. Les animaux lui disent, mais avec tes mille pattes, c'est ta façon de marcher est magnifique, mais ça doit être bien compliqué, comment tu fais? Il dit, il n'y a rien de plus simple, je vais vous montrer. Et dès qu'il essaie de montrer, il n'y arrive plus, il n'arrive même pas à marcher. Je pense que tous les écrivains, c'est un peu comme ça. Les textes, ça vient de quelque part, on ne sait pas d'où, voilà. À un moment donné, voilà, on laisse le texte de côté, et quand on y revient, on apporte des changements. Je crois qu'ils s'imposent, d'eux-mêmes. Mais on n'entre pas en littérature innocent ou vierge. On entre en littérature avec tous les bagages qu'on avait avec soi. Ce n'est pas écrit sur notre front. Nous n'en sommes pas conscients. Nous entrons avec un inconscient littéraire qui se déploie de lui-même à notre insu, sans que nous puissions le contrôler. Et quand quelqu'un dit « Yo, voici le type de livre que je vais écrire », moi je dis toujours aux jeunes qui me demandent des conseils, je leur dis « Mais en fait, ne vous occupez pas de comment vous allez écrire. Pensez simplement à l'histoire que vous voulez raconter. Quelles émotions voulez-vous communiquer à votre lecteur? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Parce qu'une histoire, c'est une masse informe de faits. Quels sont les faits qu'il faut choisir? Et lorsque vous les choisirez, ils vous diront ciao et iront se placer là où il faut dans le texte. Et je vous souhaite bien du plaisir si vous cherchez à l'en déloger parce que vous n'y arriverez jamais. Résultat des courses, la plupart des grands critiques littéraires, précisément parce qu'ils savent trop bien comment on écrit un texte, ils font de médiocres écrivains. Je peux parler comme ça, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Non, il faut garder son innocence, quoi, sa naïveté. Et le texte se charge du reste. Après, on le relit. On n'en est d'ailleurs pas forcément content. Mais on se dit, c'est ici que c'est venu se placer. Voilà. Et dans la vie, et la vie réelle, elle n'est pas... Elle n'est quand même pas au love tranquille. Elle n'est pas en continu. Voilà. Les choses vont et viennent. D'ailleurs, comme le fait dire Marquez à un personnage de 100 ans de solitude, le temps n'avance pas en ligne droite. Je crois que c'est Aurélia Buendia qui dit ça. Le temps décrit un cercle. Le temps décrit des spirales. Et je pense que, oui, l'écriture romanesque, c'est ça aussi.
Beaucoup d'écrivains reçoivent en général un rejet de leur premier ouvrage. C'est arrivé à Modimbe, à Sonny Labutansi, Émile Zola et bien d'autres. Vous aviez envoyé votre premier roman écrit à l'âge de 16 ans, je crois. C'était Le Cloison. Il n'avait pas été accepté chez Présence Africaine. De quoi s'agissait-il dans ce premier roman?
Ah oui, j'étais dans un lycée qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle la Minigay à l'époque. C'était le lycée Van Wollenhoven. Bon, voilà, c'était le lycée où on amenait les gens qui... les meilleurs élèves de... Voilà, c'est ça. Et puis, Mais on était déjà un peu sorti de l'époque coloniale, mais la quasi-totalité des profs étaient, mais vraiment, hein, la totalité même, je peux dire, c'était des Français. L'administration aussi, le proviseur, le censeur, il y avait quelques surveillants noirs. Et puis, les élèves dans les classes, quand on était 30 ou 35, il y en avait, il y avait 4 ou 5 noirs, quoi. Bon, c'était vraiment le lycée des fils de diplomates, des fils de militaires blancs français qui étaient basés à Dakar. À l'époque, c'était très important ça. Et puis, bon, ben, pas tous les profs, hein. Mais la plupart des profs étaient quand même racistes. Et voilà, moi je suis là, comme l'a dit quelqu'un, on est écrivain parce qu'on passe plus de temps à observer les autres en train de vivre qu'à vivre soi-même. Je crois que la formule est de Paul Auster. Eh bien, moi, déjà très jeune, j'observais et je vivais avec intensité les choses les plus banales qui s'y arrivaient. Eh bien, je m'estimais discriminé, donc voilà, c'était du racisme, tout ça. Et j'ai écrit pour protester, voilà, contre le racisme. J'avais d'ailleurs l'impression, chaque mot que j'écrivais, c'était un coup de poing à la figure de tel ou tel prof raciste, quoi. Oui, évidemment, c'est la naïveté infantile. Et le roman s'appelait La Cloison. Je n'avais pas écrit pour m'amuser, hein. Pour me défouler. Moi, je prétendais être déjà un écrivain digne d'être publié. Hein. Voilà, enfin, ouais, c'est des gamineries, tout ça. Et puis, je l'ai envoyé pour dire à quel point j'étais sérieux à Présence africaine, qui a mis un temps fou, d'ailleurs, avant de me répondre. Mais on m'a finalement répondu par l'intermédiaire d'un certain Jacques Aulette, une très courte lettre, disant, oh là là, votre livre est formidable. Bon, formidable, entre guillemets, mais on ne peut pas le publier. Il ne savait pas qu'il l'avait publié, il ne savait pas que c'était un gamin de 16 ans. C'est la réponse standard pour rejeter les manuscrits. Standard et poli, hein, voilà, que l'on n'a pas envie de publier. Voilà, c'est ça. J'ai bien retenu le nom du monsieur, hein. Parce qu'à l'époque, il était extrêmement important à Présence africaine. C'est lui qui avait signé la lettre. Bon, dommage que je ne l'ai pas gardé. Je n'ai même pas gardé le manuscrit. Hein. Voilà, je n'ai même pas gardé le manuscrit. Et ça, ça me fait mal, quoi. Je ne peux pas m'en consoler. Et effectivement, des livres qu'on rejette, ça fait partie, quoi, du parcours du combattant, de l'écrivain.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Beaucoup d'Africains ont réagi positivement au prix littéraire Neustadt que vous venez de recevoir. Qu'est-ce qui représente pour l'Afrique et pour vous comme écrivain?
On a quand même du mal à faire la part des choses. Un prix littéraire, bon, quel qu'il soit, je pense qu'il ne faut pas en faire une montagne. C'est bien, c'est important. D'ailleurs, le grand danger que je perçois chez certains, c'est qu'ils écrivent pour avoir des prix, pour amadouer les jurys. Heureusement que le jury du Neustadt n'existe pas en tant que tel, puisqu'il change chaque année et qu'il n'est pas possible de l'amadouer. On écrit et on oublie. Je crois que c'est une précision qui est capitale. Bon, maintenant, est-ce qu'on va dire, ah oui, voilà, comme si on avait remporté quelque chose d'extraordinaire. Non, moi je pense que c'est bien. C'est un auteur bon, qui est récompensé, une production romanesque. Et la question, c'est moins de savoir ce qu'elle représente pour l'Afrique que ce que cet auteur peut en faire au service de l'Afrique. Parce que la notoriété, au fond, on doit l'utiliser, c'est tout. On doit l'utiliser pour faire entendre sa voix, pour mener des combats, contre les justices, etc. Ça a toujours été mon terrain, en quelque sorte, hein. Mais d'ailleurs, je ne suis vraiment pas sûr qu'en Afrique, on connaisse très bien Neustadt. Je ne dirais vraiment pas « Oh, c'est une fierté pour l'Afrique. Oh, c'est très bien. On est content. » En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est que je me suis souvent fait entendre sur le Rwanda, contre la France-Afrique, contre toutes les formes d'imposture. Voilà, j'ai signé un livre avec Verschave et Odile Topner, la veuve de Mongo Betty, intitulé « Négrophobie contre l'ouvrage raciste, carrément raciste » du journaliste français Étienne, comment il s'appelle ? Oui, Stephen Smith, hein, j'oublie son nom. Et puis, un autre ouvrage avec Aminata Traoré, « La gloire des imposteurs, l'Afrique dans le monde ». Un livre pareil, ça me permet de me faire entendre davantage. Même si je dois le positionner par rapport à tout continent, c'est juste dans le sens des combats qui me semble nécessaire. Oui, je n'ai pas parlé du combat pour la promotion des langues africaines dans la lignée de Chikanta Diop, ou évidemment du combat contre le négationnisme et le révisionnisme concernant particulièrement le génocide des Tutsis au Rwanda.
Le Neustadt, c'est un prix de littérature internationale équivalent d'une Nobel de littérature. Il semble que ce prix, pour vous, traduit votre rapport à la littérature africaine en langue nationale et à la littérature post-génocide. Vous venez de le souligner un tout petit peu.
J'ai entendu mon ami Jean-Pierre Karigeye dire justement à votre micro, faire cette relation entre mon roman en Wolof, Donigolo, mon tout premier roman en Wolof en 2003, et finalement l'attribution de ce prix. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est C'est plutôt Jennifer Croft, que je ne connaissais d'ailleurs pas à l'époque, j'ai rencontré il y a 4 ou 5 jours pour la première fois, mais qui lit la version anglaise de Donigolo, intitulée The Hidden Notebooks. Il lit ça, bon, elle est intéressée, elle continue, elle se dit, ah, je vais continuer à lire un peu cet auteur, et c'est comme ça qu'elle découvre Murambi, dans sa version anglaise, évidemment. Murambi a été écrit originellement en français. Et elle propose, c'est la règle dans le prix, il y a un nombre de critiques littéraires, d'écrivains, choisis à qui on demande chacun ou chacune de proposer un ouvrage pour le prix. Et elle, on lui avait demandé, et là, elle a expliqué qu'elle a immédiatement choisi Murambi, le livre des ossements. Et ici, c'est ce que Jean-Pierre a bien expliqué, ici, vraiment, il y a la connexion entre mes deux romans qui me sont les plus chers, entre Donigolo, mon premier roman en Wolof, et Murambi, le roman qui porte sur le génocide de 1994 au Rwanda, le génocide contre les Tutsis. Oui, oui, la connexion est surprenante. Et finalement, je suis primé parce que je suis un auteur de langue wolof. Et ça porte quand même cette langue sur la scène internationale. C'est un cinglant de démenti à tous ceux pour qui vous savez, écrire en wolof, ça ne va pas bien loin. Ça reste entre les frontières du Sénégal. Ça ne va pas, oui, c'est il faut surtout pas. Il faut écrire en français, en anglais ou en je ne sais quelle autre langue occidentale. Oui, c'est important, voilà. C'est important vraiment que le Wolof soit honoré à travers ce prix-là. Le Wolof en tant que langue du Sénégal, mais aussi en tant que langue africaine, puisque toutes les langues africaines ont été piétinées par la colonisation. Gougui n'a jamais cessé de nous le dire. Voilà.
Murambi est le roman le plus étudié dans le contexte du génocide des Tutsis au Rwanda. Ce pays des mille collines de 1994 a eu, je dirais, une influence dans votre écriture post-génocide. Pourriez-vous nous parler un peu du projet Écrire par devoir de mémoire et de la façon dont cet événement s'inscrit dans votre projet littéraire et réflexion politique et sociale?
Oui, en fait, c'est à Lille, quoi. En 1996, je crois, le festival organisé par Maimouna Koulibaly et son époux de l'époque, Loki Djedanou, que nous apprenons la pendaison de Kensaru Viva à Port-Harcourt, aiguille de ses compagnons. À partir de là, bon, il y a des mouvements de compassion, de colère, mais aussi de réflexion, quoi. À quoi servons-nous, nous autres écrivains africains? Et Noki et Maimouna organisent notre séjour au Rwanda, et ça s'appelle le projet Rwanda écrire par devoir de mémoire. Nous y rendons, nous parlons avec les survivants, nous parlons même avec les tueurs, oui, c'est ça, dans les prisons. Et chacun de nous, bon, voilà, écrit son livre. Bon, on n'était pas obligé d'ailleurs d'écrire. Hein. L'idée, c'était vous y aller, vous témoigner. Si vous avez envie d'écrire, vous écrivez. Eh bien, si vous n'en avez pas envie, eh bien, vous n'en avez pas envie, vous ne le faites pas. Et c'est comme ça que nous nous sommes rendus au Rwanda. Et moi, j'ai publié Rwanda écrit par devoir de mémoire. Et ça a beaucoup changé ma vision des choses, parce qu'au départ, bah, je pensais que c'est pas bien d'écrire un roman sur le génocide des Tutsis au Rwanda, parce que l'écriture romanesque est tellement dérisoire par rapport à l'intensité de la tragédie, à sa gravité. Voilà, c'est dérisoire, c'est un instrument de... Mais bon, après quelques jours, je me suis rendu compte que, bon, voilà, oui, ça a du sens d'écrire sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Je l'ai fait, et je pense que, oui, je n'ai pas été le seul à le faire. Nous tous nous l'avons fait. Kossi Lamko, j'aime beaucoup la falaise des collines de Kossi Lamko. Ça a été bien d'aller là-bas. Ça a été bien de le faire, parce qu'à l'époque, les Rwandais eux-mêmes étaient en état de sidération, si je peux le dire ainsi, et ils avaient en tête autre chose que d'écrire des livres. Et d'ailleurs, ils ne semblaient pas bien comprendre ce qu'on était venu faire là-bas, parce que quand ils se faisaient massacrer, personne n'a voulu se porter à leur secours. Et puis voilà, des écrivains francophones qui débarquent. La compassion en bandoulière, est-ce que tout ça c'est sincère? Et puis c'est des autofrancophones, il faut faire attention. Bref, nous avons, quoi qu'on dise, inscrit l'événement dans la durée. Bon, 30 ans après, on parle du génocide de Tutsi au Rwanda, ce n'est pas grâce à nous. Ce serait très présomptueux de le prétendre, mais quand même, nous avons joué un petit rôle, quoi. Le projet Rwanda écrit par devoir de mémoire, et personnellement, ça m'a quand même mieux fait comprendre ce que nous appelions le néocolonialisme français, parce que la France a été profondément impliquée du côté des génocidaires, à mieux comprendre la France-Afrique. Voilà ce que j'appelais l'impérialisme français. Le néo-colonialisme français, c'était trop abstrait. Là, je voyais vraiment la France-Afrique dans l'odeur de la mort. Tous ces corps, quoi. C'est quand même l'État français, sous François Mitterrand, qui est pour beaucoup. Le racisme, c'est la plupart du temps, c'est tellement inconscient.
Boubacar, Boris Diop. Merci de votre entretien accordé à Bureau Afrique. Merci d'avoir partagé votre itinéraire comme écrivain.
Merci beaucoup. Merci, Eric.
Merci encore une fois. Eric Magnakiza était à la présentation. Merci et restez à l'écoute de Bureau Afrique. www.voafrique.com.